Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Deux morts en deux jours dans l'Essonne et le problème des bandes qu'il nous faut bien regarder en face. Les bandes mais aussi la justice des mineurs. Que risquent vraiment ceux qui dérapent? La réponse judiciaire est-elle la bonne? C'est un juge pour enfants, Sébastien Carpentier, qui viendra répondre à toutes les questions que l'on pose et elles sont nombreuses. Il nous racontera aussi son quotidien dans son cabinet au tribunal de Nanterre. Rendez-vous donc dans un quart d'heure à 18h15. Bonsoir Vernuccio.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Pour commencer, on découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce mercredi 24 février.
Après Nice, Dunkerque reconfiné le week-end dès vendredi soir. Des derniers jours cruciaux pour certains départements où les chiffres de l'épidémie sont mauvais. On regardera la carte de France dans un instant. Vous en parliez Thomas Erix, dans l'Essonne, vous entendrez le témoignage poignant d'un habitant de Boussy-Saint-Antoine. Un ado de 14 ans est mort dans ses bras. Le bilan financier de la SNCF en nette baisse, mais moins pire que prévu. Et puis saisi record de cocaïne en Allemagne, 16 tonnes, c'est du jamais vu en Europe.
Ça fait beaucoup. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, il y aura encore beaucoup de soleil.
Exactement, sauf sur le nord-ouest quand même, puisqu'on a l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va donner un peu de pluie, mais vraiment pas grand-chose. Un ciel bien nuageux toute la journée, ça restera couvert également sur le golfe du Lion, toujours ses entrées maritimes, quelques nuages et quelques gouttes. Partout ailleurs, il fera très beau, vous l'avez dit, après dissipation des grisailles, surtout dans le sud-ouest, et puis des températures qui seront en baisse, mais toujours au-dessus des normales, des minimales comprises entre 2 et 12 degrés. Des maximales entre 11 et 20 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Après Nice, autour donc de Dunkerque, de ce reconfinement, de se reconfiner partiellement, le taux d'incidence y est 4 à 5 fois supérieur par rapport aux chiffres nationaux. La mesure entre en vigueur dès ce week-end, annonce le ministre de la Santé sur place.
Ainsi, à Dunkerque et dans la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, ce qui représente environ 250 000 habitants, à compter de vendredi soir et jusqu'au lundi matin, un confinement sera désormais adapté le week-end, donc dès ce week-end. Les déplacements resteront possibles pour certains motifs, tels que des achats de première nécessité ou encore des motifs médicaux, vous connaissez ces motifs, et les commerces, autres que les commerces alimentaires, seront fermés. Les centres commerciaux d'une surface supérieure à 5000 mètres carrés, il y en a 10 dans ces deux aires urbaines, ne fonctionneront plus qu'en cliquer emporté. Les jauges de fréquentation des autres commerces seront réévaluées à 15 mètres carrés par client. Les protocoles sanitaires seront rétablis sur les marchés. Par ailleurs, dans l'ensemble du département cette fois, la vente d'alcool à emporter ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Propos recueillis par Antoine Decarne à Dunkerque.
On dit plus click and collect, on dit cliquer emporter.
Tout à fait.
C'est important.
Sur le front de la vaccination, Thomas, 16 700 doses supplémentaires vont être déployées dans cette région, ajoute le ministre de la Santé.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, que l'on entendra demain soir à 18h, a priori pour une conférence de presse aux côtés du Premier ministre Jean Castex. Et puis il y a le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui, lui, a averti les Français tout à l'heure. Tous nos efforts doivent se poursuivre pour éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national.
Et il alerte sur certaines zones particulièrement fragiles. Pour l'instant, pas d'annonce officielle à l'issue de ce Conseil de défense. Mais si on regarde la carte de France du taux d'incidence, certains départements pourraient bien connaître de nouvelles restrictions, Sophie Jousselin.
Oui, ils sont situés dans quatre régions, du haut en bas de la carte de France, Hauts-de-France, région Grand Est, Île-de-France et PACA. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, il dépasse le seuil d'alerte fixé à 250 dans la majorité des départements. 349 dans le Pas-de-Calais, 301 dans le Nord comme à Paris, 314 en Seine-Saint-Denis, idem dans le Var, 348 dans les Bouches-du-Rhône, 312 en Moselle. Et non seulement les courbes des nouvelles contaminations repartent à la hausse, mais s'ajoute à cela le niveau très élevé des taux d'occupation dans les services de réanimation, 128% par exemple dans le Pas-de-Calais. Certes, on n'atteint pas les chiffres des Alpes-Maritimes avec un taux d'incidence de 595, mais les chiffres sont inquiétants et pourraient donc entraîner des mesures plus strictes, voire des confinements locaux. Le but, essayer de circonscrire cette nouvelle poussée épidémique pour éviter d'en arriver à un nouveau confinement généralisé dans les jours ou semaines qui viennent.
Merci à vous Sophie Jousselin, Olivier Véran qui parlent de prochains jours cruciaux pour ces zones. Deux adolescents tués en 24 heures dans l'Essonne, dans deux rixes. Les deux affaires ne semblent pas être liées selon le parquet. La dernière s'est déroulée hier à Boussy-Saint-Antoine. Un garçon de 14 ans a été tué, probablement d'un coup de couteau au ventre. Ça s'est passé quasiment dans les bras de Moustapha, un travailleur social. Témoignage très émouvant.
Je me suis dit, je vais essayer de calmer les choses. Je me suis vite rendu compte que j'étais entouré d'un nombre incroyable de jeunes et que je pouvais rien faire. Donc j'ai rebroussé chemin jusqu'au moment où j'ai entendu qu'un jeune était tombé parce qu'il venait de recevoir un coup de couteau. Donc j'ai refait demi-tour à nouveau. J'ai essayé de voir comment je pouvais intervenir, l'aider. J'ai vu une jeune fille qui avait mis un t-shirt sur la plaie pour éviter que le sang coule à flot. J'ai pris la main du petit, je lui ai parlé. J'ai vu qu'il ne me répondait pas, qu'il avait les yeux révulsés. J'ai vu que son état était vraiment critique. Et il était blessé à l'abdomen, il avait reçu un coup de couteau. Je pense qu'elle lui a perforé ou le poumon ou le cœur. C'est peut-être pour ça qu'il avait du mal à respirer. Ouais. Je lui ai pris la main, je l'ai vu nous quitter. J'ai un sentiment un petit peu quand même de culpabilité. Je me dis qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse justement pour que ce jeune puisse être parmi nous aujourd'hui. Comment est-ce que j'aurais pu calmer les autres? Je le vis très mal. Hein. Je suis sous le choc en fait. Je pense à lui déjà en premier. Quoi. 14 ans, c'est pas un âge pour mourir. Quoi.
Voilà le témoignage de Moustapha au micro RTL de Morad Jabari. Alors, il y a eu Bussy-Saint-Antoine. La veille, une autre rixe mortelle éclatée à Saint-Chéron. On est à une quarantaine de kilomètres de là. Une adolescente de 14 ans a été poignardée alors qu'elle tentait de s'interposer et elle aussi a succombé à ses blessures.
6 mineurs vont être présentés à un juge d'instruction pour 5 d'entre eux. Le placement sous contrôle judiciaire a été requis. Pour le dernier, âgé de 16 ans, le parquet demande son placement en détention provisoire. Alors, je me tourne vers vous, Cindy Hubert. Bonsoir.
Bonsoir.
Plus largement dans ce type d'affaires où des mineurs sont en cause, que peut faire la justice? Quelle est la réponse pénale?
Eh bien, très classiquement, il va y avoir une instruction. Le juge va devoir démêler les responsabilités de chacun. Ici, les faits sont graves. S'il y a un procès, les mineurs vont donc comparaître devant un tribunal pour enfants. Dans cette affaire, l'auteur accusé de meurtre à 16 ans, lui, pourrait donc être jugé devant une cour d'assises des mineurs. Quoi qu'il arrive, le juge a toujours à l'esprit que ces jeunes sont des êtres en construction. C'est tout le principe de la justice des mineurs, l'éducatif doit toujours primer.
Et que risque-t-il alors?
Eh bien, le juge dispose d'un panel de mesures très large, des mesures éducatives. Cela va de la simple admonestation à des stages de bénévolat dans une association, un suivi régulier par la PJJ. Et puis le juge peut également prononcer exactement le même genre de peine que pour les adultes, des tiges, travaux d'intérêt général, du sursis probatoire, de la prison ferme. Ces peines sont simplement divisées par deux.
Vous le disiez, la primauté doit rester à l'éducatif, Cindy. À partir de quel âge un jeune peut-il aller en prison en France aujourd'hui?
À partir de 13 ans. 13 après ans. La prison reste vraiment la toute dernière option. Avant cela, le juge peut décider, par exemple, d'un placement en centre éducatif fermé. Si l'on regarde les chiffres de 2020 sur tous les mineurs mis en cause, 7% ont été condamnés à de la prison ferme, 775 mineurs incarcérés au 1er janvier, un nombre stable depuis près de 10 ans.
Cindy Hubert, du service police-justice d'RTL.
Ouais, je vous rappelle qu'on parlera de ce sujet, de ces bandes et de la justice pour mineurs avec Sébastien Carpentier, juge pour enfants au tribunal de Nanterre et membre du syndicat de la magistrature. Il sera avec nous dans quelques minutes. Dans un instant, après la pause, on va voir la SNCF qui a un peu moins mal que ce qu'elle redoutait.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal Aude Vernuccio. Après un an de pandémie, la SNCF publie tout à l'heure son résultat annuel pour 2020. On s'attendait au pire. Mais c'est pas complètement le pire.
C'est moins pire que prévu, mais perte tout de même énorme de 3 milliards d'euros. La chute des recettes a été amortie en quelque sorte par un plan d'économie, explique Jean-Pierre Parandou, le PDG de la SNCF.
C'est donc une mauvaise année. Comme je le disais, le groupe a souffert de la crise. TGV a beaucoup souffert, moins 50% de chiffre d'affaires. Mais dans le groupe, il y a Geodis qui, lui, a progressé de 4,5%. Voilà, donc on voit des réalités très différentes à l'intérieur du groupe. La SNCF a été touchée par la crise. Les résultats de 2020 le montrent, ils sont peut-être moins pires que ce qu'on avait craint à l'issue du premier semestre, donc on a su réagir, mais ce ne sont pas des bons résultats, je vous l'accorde. Pour autant, nous sommes confiants dans notre capacité de rebond. Et je peux vous dire que la SNCF saura trouver sa voie dans cette stratégie de volume, avec toujours en tête l'idée très claire qu'elle doit être utile aux Français et utile au territoire qu'elle dessert.
Propos recueillis par Anaïs Bouissou pour RTL. A noter ce soir que l'UNEDIC prévoit un déficit de 10 milliards d'euros et anticipe la destruction de 230 000 emplois en 2021.
L'UNEDIC est le régime d'assurance chômage du pays. On va à l'étranger à présent, Aude. Et Paris dénonce clairement sans détour le traitement réservé aux Ouïghours par la Chine.
Une communauté musulmane persécutée d'après de nombreux témoignages. Une étude américaine parle d'un million de personnes internées dans des camps de travaux forcés. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, parle d'un système de répression institutionnalisé dans la région du Xinjiang.
De la région chinoise du Xinjiang, nous parviennent des témoignages et des documents concordants qui font état de pratiques injustifiables à l'encontre des Ouïghours et d'un système de surveillance et de répression institutionnalisé à grande échelle. Dans de trop nombreuses régions, les possibilités d'expression de la société civile se réduisent en raison des mesures prises par des régimes autoritaires ou qui ne comprennent pas qu'il ne saurait y avoir de stabilité et de développement sans respect des libertés fondamentales et de l'aspiration des sociétés, notamment de la jeunesse, à vivre librement.
Propos recueillis par Christophe Decroix pour RTL. Direction l'Allemagne à présent avec une saisie record de cocaïne à l'échelle européenne. 23 tonnes, dont 16 rien qu'en Allemagne, dans le port de Hambourg. On l'a appris aujourd'hui. L'opération s'est en revanche déroulée il y a 10 jours. La drogue en provenance d'Amérique du Sud était cachée dans des conteneurs, Blandine Milsan.
La drogue était soigneusement cachée dans des boîtes de conserve. 1700 boîtes censées contenir du mastic, mais qui passaient au rayon X ont montré qu'elles recelaient une toute autre marchandise. Ces boîtes étaient réparties dans 5 conteneurs, ils arrivaient du Paraguay, et étaient destinés à une firme d'import basée à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le gérant de cette firme, un jeune homme de 28 ans, a du reste été arrêté. Voilà pour la cocaïne saisie dans le port de Hambourg, connue pour être une plaque tournante du trafic de drogue. Mais dans le cadre de la même enquête, la police belge a saisi, elle, plus de 7 tonnes de cocaïne dans le port de la ville de Anvers. Cette fois, la drogue était dissimulée dans un conteneur transportant du bois. Au total, donc, 23 tonnes, c'est la plus grosse saisie de cocaïne jamais effectuée en une seule fois en Europe. Selon les enquêteurs allemands, la valeur de cette marchandise représenterait jusqu'à 3 milliards d'euros.
Blandine Milsan, correspondante d'RTL en Allemagne.
Nous sommes le 24 février et on tient encore
la bonne nouvelle du jour.
Le pari de la bonne nouvelle quotidienne.
Allez-y. Le pari d'Amandine Bégaud, j'essaye de le tenir. Je vous raconte ce soir et l'histoire d'un trésor oublié pendant 100 ans. C'est un tableau de Vincent Van Gogh, une scène de rue à Montmartre qui a été retrouvée. Ce tableau sera exposé à Drouot du 16 au 23 mars avant la vente aux enchères. Un tableau estimé entre 5 et 8 millions d'euros. Un mystère demeure pourtant sur son acquisition. Aurélie Van de Voorde, elle est chef du département d'art impressionniste et moderne chez Sotheby's.
Les tableaux de Van Gogh avaient été très peu vendus du vivant de Van Gogh. Donc la quasi-totalité des tableaux sont ensuite restés dans la famille de Van Gogh. Donc il est probable que le tableau a fait partie de cette succession. Et ensuite, on sait qu'il y a environ 100 ans, ce tableau a été acquis par la famille qui le détient aujourd'hui encore. Et dans beaucoup de ces tableaux de cette époque, il va peindre des paysages véritablement assez peu animés. Et ça évoque déjà vraiment les tableaux majeurs que Van Gogh va peindre à partir de 1887. Compte tenu de la rareté, de la qualité et du côté aussi charnière du tableau pour comprendre l'évolution de l'art de Van Gogh, nous avons mis une estimation de 5 à 8 millions d'euros. L'estimation nous semble tout à fait conservatrice et raisonnable.
Des propos recueillis par Monique Younes pour RTL.
Merci à vous, Aude, et à tout à l'heure. Il est juge pour enfants au tribunal de Nanterre alors que les bandes s'affrontent. On en parlait dans le journal de 18h et que l'on s'interroge sur la justice des mineurs. On a bien besoin de son savoir et de son expérience. Sébastien Carpentier est l'invité RTL d'RTL Soir tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Des bandes qui s'affrontent, des mineurs qui s'entretuent, deux ados de 14 ans qui laissent la vie en deux jours dans l'Essonne. Forcément, on s'interroge. Que faire? Que peut faire la justice? Comment remettre ces jeunes dans le droit chemin? Bonsoir et bienvenue dans RTL Soir, Sébastien Carpentier. Vous êtes juge pour enfants au tribunal de Nanterre et membre du syndicat de la magistrature. La procureure de la République d'Evry, Caroline Nizan, a parlé d'affaires qui gangrènent l'Essonne et qui placent les mineurs en première ligne. Est-ce que vous, à votre échelle, déjà vous faites le même constat avec ces bandes aujourd'hui?
Bonsoir. Moi, Nanterre, ce que je peux constater au regard de mon activité juridictionnelle, sur mon secteur en particulier et dans le cadre de la permanence sur le ressort de Nanterre, ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement ce type de faits divers, hein, des rixes entre bandes rivales. Ça existe, malheureusement.
Mais il y en a de plus en plus ou pas?
De plus en plus. À mon avis, je ne constate pas.
En tout cas,
sur le quotidien de l'activité au pénal, ça arrive, mais c'est pas du tout les affaires courantes au quotidien.
Ils ont quel profil, ces jeunes que vous voyez, vous? Ce sont des très jeunes, ce sont des enfants qui sont instrumentalisés par des plus grands. Est-ce que comment
Je dirais que ce qu'on constate, ce que je constate, c'est que Ces mineurs, ils sont pas plus jeunes. Ils sont en général entre, je dirais, entre 14 et 18 ans.
Ouais.
Ce sont des mineurs qui, de manière générale, ont une structuration familiale tout à fait stable.
Ouais.
Des parents présents, parfois, et même très souvent, une scolarité. Et en réalité, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils sont happés par l'extérieur. Il y a plusieurs explications. Je dirais qu'il y a une demande, une recherche de valorisation à l'extérieur, qu'ils peuvent ne pas rencontrer à l'école, par exemple, ou par le regard de la famille.
C'est ce qu'on appellerait les mauvaises fréquentations ?
Très souvent, c'est le cas.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'émulation qui se passe entre eux. La réunion, c'est une circonstance aggravante dans le code pénal. Mais ce qu'on constate, c'est que la réunion, en fait, c'est le moyen de passer à l'acte pour ces mineurs.
La réunion, donc, c'est le fait d'être en bande, hein, c'est ça, la réunion.
C'est le fait d'être au moins à deux, hein, en tant que co-auteur ou complice. Ce que je souhaite dire, c'est que la justice sait faire face à ce type de faits divers. Ils existent depuis très longtemps. Nous avons tout l'arsenal éducatif, mais aussi pénal. Simplement, quand on essaye d'individualiser la réponse, très souvent, ça c'est à la main du parquet. Il y a des déferments, il y a des convocations pour officier de police judiciaire ou simplement des requêtes pénales. Et derrière, on prononce les mesures nécessaires.
Alors justement, on va y venir un peu, parce qu'il y a une idée communément répandue qui dit, si je caricature un peu, que l'ordonnance de 45, qui jusqu'à présent organise la justice des mineurs, fait primer l'éducatif, les protège, que les mineurs ne risquent rien. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui, ça ?
Ben, c'est faux. Le mineur risque, en réalité, aujourd'hui, le code pénal et l'ordonnance de 45 ne prévoient pas d'âge à partir duquel on peut poursuivre un mineur. Hein, ça, c'est aussi une problématique et peut-être que ça va changer, mais
ça, un mineur ça veut dire quoi, risque pénal. Pour comprendre, parce que Cindy Hubert nous disait tout à l'heure, un mineur ne va pas en prison avant l'âge de 13 ans. Ça, c'est la règle.
Ça, c'est très clair.
Ça, c'est la règle. Voilà.
Et de manière générale, le premier réflexe, ce n'est pas la prison. Les mesures éducatives, on a plein de mesures possibles, des placements éventuels. Simplement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il nous manque des éducateurs. Il nous manque des éducateurs formés. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de vacataires. Un manque de lieux de placement. Et en réalité, ça fait, quand on prononce une mesure immédiatement, très souvent, c'est plusieurs mois d'exécution.
Ça veut dire que les mesures éducatives que vous prenez, que le juge va prendre, ne sont pas appliquées faute de moyens, c'est ça aujourd'hui ?
Oui.
Il y a moyen de donner un pourcentage de cas ou c'est la majorité des cas ou c'est...
C'est très souvent le cas.
Très souvent. C'est un problème.
La directive est de prioriser les contrôles judiciaires. Hein, une mesure de sûreté, si on ne respecte pas les obligations, les interdictions, c'est une détention provisoire. Alors c'est un peu plus technique, mais sur les moins de 16 ans, il faut d'abord passer en centre éducatif fermé pour passer en détention provisoire.
Donc ça c'est pour les 13-16 ans, on est d'accord.
13-16 ans.
13-16 ans.
Oui. Et les mesures éducatives, par exemple les mesures de réparation, la liberté surveillée préjudicielle, parfois mettent plusieurs mois à être exécutées.
Donc ça veut dire que de fait, on en vient à l'impunité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une impunité de fait, parce qu'effectivement il y a des mesures éducatives qui sont prises, mais si elles peuvent pas être appliquées faute de moyens, le jeune il sort du cabinet du juge et dit bon voilà très bien, ils me rappelleront à la cinglingue. C'est ça aujourd'hui ce à quoi vous êtes confronté.
Ben, ça arrive. Moi, ce que je souhaite dire aussi, c'est que il faut aussi envisager l'amont du passage à l'acte. Et ce que je constate, c'est que, par exemple, dans mon secteur, je ne suis jamais saisi en assistance éducative pour ce type de difficulté de mineurs repérés qui n'ont pas encore commis d'infraction. Il n'y a pas d'enquête sociale, pas d'informations préoccupantes et je n'ai pas la possibilité de prévenir ce type de passage à l'acte.
Vous dites qu'il faudrait pouvoir agir quand on sent qu'un enfant est sur la corde raide, ouais. Il faudrait pouvoir intervenir à ce moment-là.
Et on a tous les moyens d'y faire face.
Ça, c'est en pas amont le boulot du juge, c'est le boulot de l'assistante sociale, non ? C'est votre job, ça ?
Bien sûr.
Parce qu'il n'y a pas de délit, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit.
L'assistance éducative fait partie de nos prérogatives et les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert peuvent répondre aussi à ce type de difficultés. On ne s'en saisit pas, a priori, naturellement. Quand on voit qu'un mineur peut traîner dehors, dans la rue, ou être en difficulté dans, on pourrait dire, des bandes, il faudrait pouvoir nous saisir en assistance éducative.
Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, il y a davantage un problème de moyens qu'un problème de législation.
Tout à fait. Ouais. L'ordonnance de 45, aujourd'hui, elle fournit toutes les possibilités éducatives, mais aussi lorsque il est nécessaire de prononcer des mesures de sûreté ou des peines. Et la détention provisoire est toujours le dernier recours. Je souhaite dire que malheureusement, on prononce des détentions, on saisit le juge des libertés les détentions de temps en temps, hein, et même quand c'est nécessaire. On prolonge les détentions provisoires et on prononce aussi des peines fermes.
Et un gamin qui va en prison aujourd'hui, il en ressort en délinquant chevronné ou pas ? Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup de la prison pour les adultes. C'est la même chose pour les enfants ?
La difficulté, notamment dans cette problématique, c'est que ils sont en recherche de valorisation très souvent, une identification à un groupe. Et si on répond de manière tout de suite un peu trop sévèrement, on répondrait à une sorte de demande de valorisation par justement le passage à l'acte délinquant, la prison qui rentrerait à une sorte de palmarès, ça arrive, et il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice.
C'est-à-dire c'est la médaille, quoi. Je suis allé en prison, c'est ça. Je suis fier, je suis allé en prison.
Mais ça arrive. Ouais. Donc, comment faire pour éviter à tout prix de faire coller ce mineur à cette image, de l'en dégager? Et il faut des éducateurs, notamment de rue, des éducateurs qui interviennent aussi dans le cadre des mesures judiciaires pour les sortir de ces difficultés, de leur faire des activités, d'aller les voir. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est que les éducateurs, ils n'ont pas vraiment le temps de se déplacer régulièrement lorsque le mineur ne vient pas au rendez-vous. On va très souvent, vers
le mineur. Le mineur qui a fait une bêtise, qui va venir vous voir, qui va se prendre une condamnation. On dit une condamnation dans ces cas-là ou on dit une mesure éducative ?
Alors, dans un premier temps, c'est une mise en examen, en qualité des instructions.
Une mesure
on prononce
éducative.
Une mesure éducative avant
s'il est bien, bien luné, il va dire OK, je ferai plus machin. Sinon, c'est la faillite de la justice que vous nous décrivez là pour les mineurs. Vous dites qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les éducateurs, on ne peut pas appliquer les peines, on ne peut pas appliquer les mesures éducatives.
Il y a des choses qui fonctionnent. Ça fonctionne de au quotidien, ça fonctionne aussi. Ouais. Un travail très important est effectué quand c'est exécuté. Ça fonctionne. J'ai beaucoup d'exemples en tête qui fonctionnent. Il y a plein de mineurs qui s'en sortent. On arrive à les accompagner. On sait vraiment faire face à ce type de faits. Je dirais que ces événements sont certes dramatiques, mais ça arrive quand même relativement assez rarement que ça en vienne à des décès. Hein. Et je dirais qu'il faut vraiment arriver à pouvoir le faire en amont.
Sébastien Carpentier, il y a une réforme de la justice pénale pour mineurs qui est en cours. Et le 16 février dernier, il y a quelques jours, le Parlement a adopté définitivement le code de la justice pénale des mineurs. C'est une nouveauté. Il doit entrer en application normalement à la fin du mois de septembre prochain. Vous y êtes hostile. Pourquoi vous êtes hostile à ce code de la justice pénale des mineurs ?
C'est pas que je dirais que je suis pas. C'est pas une hostilité.
Vous avez signé une tribune quand même contre ce texte.
Tout à fait. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre, faire face à la délinquance des mineurs. On n'a pas analysé le problème du pourquoi, les causes, les raisons d'une justice des mineurs qui est complètement sous l'eau. la politique pénale. Je rappelle que aussi le taux de réponse est supérieur à celui des majeurs. Donc,
ça veut dire qu'il y a plus de condamnations chez les mineurs que chez les majeurs.
Il y a beaucoup plus de poursuites.
On va plus au bout des affaires.
Beaucoup plus de poursuites.
D'accord.
Les tribunaux pour enfants sont engorgés. Pourquoi?
On a la plus grosse augmentation depuis 25 ans du budget de la justice en 2021, plus 8%.
Je dirais que je rentrerai pas dans ces considérations, mais on sait très bien que ça va beaucoup plus à l'administration pénitentiaire. Et je dirais que ce n'est pas l'administration pénitentiaire qui va beaucoup plus aider sur le plan éducatif. Ce n'est pas une réponse.
J'ai une dernière question, Sébastien Carpentier. Est-ce qu'ils vous redoutent, ces jeunes? Est-ce qu'ils vous craignent? Quel est leur rapport à l'autorité quand ils sont face à vous, dans votre cabinet?
Au niveau individuel, ça répond.
Ouais.
Ils sont en lien. On peut faire quelque chose avec eux. Ils ont très souvent des parents qui sont vraiment présents. Il manque simplement un discours éducatif solide, de faire bloc pour les accompagner dans leur volonté aussi de justice, qui est très forte, puisque dans ce type de rixes, ce qui se passe, c'est beaucoup une demande de justice qui se transforme dans des considérations de vengeance. Mmh. Donc ça ne s'arrête jamais. Donc c'est pouvoir leur dire stop, de faire taire et de leur apporter un encadrement.
Merci beaucoup Sébastien Carpentier d'être venu en direct dans RTL Soir. Vous êtes, je le rappelle, juge pour enfants au tribunal de Nanterre et membre du syndicat de la magistrature. Merci à vous.
Merci à vous.
À suivre, Napoléon Bonaparte, dont on va célébrer cette année le bicentenaire de la mort. D'ailleurs, faut-il commémorer cet empereur? C'est le sujet qui taraude Valérie Trierweiler. L'œil de Valérie, c'est juste après le rappel des titres.
Thomas Soto, RTL Soir.
18h31.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Léo Vernuccio pour le rappel.
Après Nice et le littoral des Alpes-Maritimes, c'est au tour de Dunkerque d'être partiellement reconfiné. Même consigne, pas de sortie du vendredi soir 18h au lundi 6h du matin, sauf pour faire ses courses ou encore aller chez le médecin. Écoutez la réaction du maire de Dunkerque, Patrick Vergrit.
C'est pas une déception. Quelque part, on s'est mis d'accord sur tout ce qu'on avait proposé au niveau des élus locaux. Le ministre a choisi de rajouter un confinement le week-end. Au regard de la saturation de l'hôpital, c'était une décision difficile, on a échangé là-dessus. Je comprends sa décision, je comprends à un moment donné que l'État puisse prendre cette responsabilité. Et je pense qu'il faut que maintenant l'ensemble des Dunkerquoises et Dunkerquois adoptent les bons gestes qui nous permettront de sortir de cet état difficile dans lequel on est aujourd'hui. Et surtout maintenant, il est temps de penser à nos soignants. Donc je soutiens sa démarche, même si on avait demandé effectivement un sursis supplémentaire. Peut-être que si on avait réussi à partir plus tôt cette campagne de prévention, elle aurait pu être active aujourd'hui. C'est ainsi. Maintenant, ce qui compte, c'est l'avenir. Et donc, je soutiendrai à fond les mesures prononcées ici même.
Patrice Vergrit au micro d'Antoine Decarne pour RTL. Et 116 700 doses du vaccin anti-Covid supplémentaires vont être déployées dans la région, ajoute le ministre de la Santé. 10 autres départements sous surveillance. Les prochains jours vont être cruciaux, selon Olivier Véran. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a averti les Français. Tous nos efforts doivent se poursuivre pour éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national. Les prévisions de l'UNEDIC, l'organisme qui gère l'assurance chômage, il prévoit un déficit de 10 milliards d'euros en 2021 et anticipe la destruction de 230 000 emplois. Et puis deux adolescents tués en seulement deux jours dans l'Essonne après deux rixes. La première à Saint-Chéron lundi. 6 mineurs vont être présentés à un juge d'instruction. Pour 5 d'entre eux, le placement sous contrôle judiciaire a été requis. Pour le dernier, âgé de 16 ans, accusé de meurtre, le parquet demande son placement en détention provisoire.
La météo, Peggy Broche, et il fera doux comme un bisou voyou dans le cou.
C'est vrai que vous avez méchanté, j'avais oublié.
Vous connaissez cette chanson, d'où Jean-Jacques Goldman?
Oui, ben de toute façon, vous connaissez tout Jean-Jacques Goldman, vous. D'où, en effet, on va...
Même... flatté.
Mais oui, c'est vrai. Même si les températures vont baisser demain, on sera toujours au-dessus des normales. Alors comme hier, quand même, on se couvre en sortant le matin, surtout sur le nord-est, de 2 à 6 degrés, 6 à 10 ailleurs. Des maximales encore très élevées pour la saison, comprises entre 11 à Cherbourg et 20 à Strasbourg, 18 à Paris et Bordeaux, 16 à Marseille. Côté ciel, encore une très belle journée ensoleillée sur les trois quarts du pays, après dissipation de quelques grisailles matinales, surtout dans le sud-ouest. Mais le ciel sera bien nuageux sur le nord-ouest, avec quelques pluies, et puis toujours plus de nuages également sur le golfe du Lion et du vent.
Merci beaucoup, Peggy. sommes mercredi, il est 18h34. Le mercredi à 18h34, c'est Valérie Trierweiler qui est avec nous. Bonsoir Valérie.
Oui, bonsoir Thomas.
Ah, vous avez trouvé une petite polémique, une de plus. Ça faisait longtemps, ça manquait.
Mais oui, vous savez qu'en France, on adore ça, les polémiques. Et là, on vient tout juste de sortir de la guerre du steak. La guerre du steak à Lyon. Donc là, je vous en ai trouvé une nouvelle guerre. Je vais vous parler de Napoléon.
C'est du sérieux. Si vous ressortez Serge Lama, c'est que c'est du sérieux.
Et pourquoi pas ?
Bon, vous trouvez qu'on n'a pas assez de confinement sur le couvre-feu. Faut rajouter Napoléon maintenant.
Non, mais vous savez, c'est une vraie polémique. Parce que le 5 mai prochain, ce sera les 200 ans de sa mort, donc à Sainte-Hélène. Et aujourd'hui, il y a autant de voix favorables à cette commémoration que de voix opposées. Alors, vous savez, il va y avoir forcément des événements, une grande exposition à la Villette. Si les musées sont ouverts, sinon ce sera en visio, avec un biopic. En même temps, il y avait que 1000 films sur Napoléon, donc un de plus, pourquoi pas. Et je ne vous parle même pas des livres, puisqu'il y a une centaine d'ouvrages qui sont d'ores et déjà prévus, qui vont inonder les librairies.
Bon, mais alors où est le problème ?
Le problème, ça se situe au niveau de l'État et du président en particulier. Napoléon, c'est le personnage historique préféré des Français. C'est un symbole. Mais en même temps, il est celui qui divise le plus. C'était un chef de guerre, un général, un consul, empereur. Il a gagné près de 40 batailles aux noms célèbres. Mais vous savez, les historiens, vous savez de quoi ils ont peur aujourd'hui ? Ils ont peur que ces noms célèbres alimentent les rues de Paris et rien d'autre. Qu'on ne sache plus ce qu'était Austerlitz, Siena, Wagram, Waterloo.
Je pense que Wagram, c'est un boulevard, quoi.
Voilà.
C'est ça.
Ouais,
ça
déplace.
C'est un peu dommage. Hein, bon, mais où est-ce que ça coince alors ?
Ça coince parce que ce qui fait débat, c'était la misogynie de Napoléon. Donc imaginez, dans le code civil qu'il a lui-même conçu.
Le code Napoléon,
Il faisait de la femme une éternelle mineure. Alors imaginez les mouvements féministes si Macron décide de le célébrer en grande pompe. Et puis c'est pas tout, il y a aussi le rétablissement de l'esclavage 8 ans après son abolition, notamment en Guadeloupe et à Saint-Domingue en 1802. Et puis il va aussi laisser mourir Toussaint Louverture. Qui était emprisonné dans le Jura, le Doubs exactement. Donc tout ça fait polémique.
Mais en même temps, tout ça, c'est l'histoire, c'est notre histoire. Est-ce qu'il faut pour autant passer sous silence les 200 ans de la mort de Napoléon ?
Voilà, c'est la question. Entre les deux tours, Emmanuel Macron, entre les deux tours, il avait annoncé qu'il célébrerait le bicentenaire de la mort, notamment de Napoléon, notamment en présence de Poutine, devant le tombeau de Napoléon. Donc aux Invalides, aujourd'hui, c'est un peu moins d'actualité parce que associer Poutine, qui n'est pas un modèle de démocrate, c'est pas non plus l'idéal. Revenons à ce qui pose vraiment problème, le rétablissement de l'esclavage. Bon, en France, en ce moment, les mouvements indigénistes et anticolonialistes sont très présents et donc on a très peur de débordements. Et pour les élus d'outre-mer, cette commémoration, c'est impossible. Ce serait faire l'apologie d'un crime. Et d'ailleurs, en 2005, Chirac, lui, avait renoncé à célébrer le bicentenaire d'Austerlitz qu'il avait eu peur d'un mouvement politique d'outre-mer. Après, il y a quand même le souvenir de la gloire, des victoires. Il appartient au roman national, c'est même un héros universel. Et du côté du ministère de la Culture, on explique que ce serait quand même un comble qu'il soit célébré à l'étranger et pas en France.
Alors, ça va jouer sur quoi, finalement ?
Alors, tout dépendra déjà de la situation du Covid. On va pas en sortir, c'est comme le Covid. Mais en même temps, vous savez, Macron, qui s'était comparé lui-même à Napoléon, et réfléchi à faire du en même temps la commémoration de la mort de Napoléon le 5 mai, et en même temps faire une cérémonie un peu plus conséquente pour l'abolition de l'esclavage le 10 mai. Ça lui permettrait d'unifier la nation. On en a bien besoin en ce moment. Et puis, comme on dit, vous savez, Thomas, commémorer n'est pas célébré.
Et ben voilà, vous auriez commencé par ça, vous auriez gagné 2 minutes 30, dis donc. On aurait réglé le problème. Merci beaucoup à vous, Valérie.
Merci.
Demain, c'est
Philippe Cavrivière.
Et ouais, il est toujours là. On a essayé, on suit vos recommandations pour essayer de le sortir, mais il n'a pas voulu.
Non, moi j'adore l'écouter.
Nous aussi, il sera là et vous aussi, vous serez là mercredi prochain. Merci beaucoup à vous.
Bonsoir.
Il a aimé la CGT au point de s'y faire embaucher. Aujourd'hui, déçu, il raconte ce qu'il y a vu. Jean-Bernard Gervais raconte donc le syndicat dirigé par Philippe Martinez de l'intérieur dans un livre et nous embarque au royaume de la CGT. C'est en direct juste après la pause.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Il s'appelle Jean-Bernard Gervais, il publie chez Michalon « Au royaume de la CGT, la résistible ascension de Philippe Martinez » et il est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous Jean-Bernard Gervais.
Bonsoir.
Déjà pour comprendre ce livre, il faut savoir et comprendre qui vous êtes vous. Alors vous êtes journaliste, vous étiez syndiqué SNJ-CGT et puis en 2016, vous y faites embaucher à la CGT. Vous devenez un permanent au siège. Comment et pourquoi déjà ?
Tout à fait. Ben, j'avais quand même quelques années de militantisme derrière moi, puisque avant le SNJ-CGT, j'ai été en fait, j'étais au bureau national du SNJ tout court, hein, et pendant une dizaine d'années. Donc j'avais en fait un bagage syndical. Et autour de 2016, je me suis retrouvé en fait au chômage et j'ai été approché en fait par la CGT pour devenir conseiller en communication au bureau en fait confédéral 263 rue de Paris à Montreuil.
C'est le gros bâtiment de la CGT.
C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est le siège social, hein, si je puis dire, en fait, de la CGT. Oui,
et vous êtes quel genre de militant de la CGT ? Un dur, un modéré ? Comment vous vous définiriez ?
Un sincère. Alors, je ne sais pas en fait si le fait d'être sincère vous catalogue parmi en fait les militants radicaux ou pas. En tous les cas, j'étais un militant sincère. On rentrait dans une période qui était la période de la lutte contre la loi travail en 2016. On allait en fait batailler contre les ordonnances Macron. On allait aussi batailler contre la réforme du statut de cheminot. Il y avait en fait pas mal de pain sur la planche. Ouais. Et c'était une période pour moi idéale, en effet, pour militer au sein de la CGT.
Donc vous êtes embauché à la com. Au début, vous n'êtes pas là pour les trahir, hein, la CGT. Vous écrivez d'ailleurs, je n'avais pas du tout l'intention de pondre la moindre ligne, point du tout. J'étais là pour voir mon idole, car que je le veuille ou non, j'étais sous le charme de ce petit homme aux moustaches brun anthracite fourni, cet astérix hispanique à la peau tannée qui résistait du fond de son petit village gaulois. Vous l'appelez d'ailleurs Pépito, c'est donc Philippe Martinez. D'où cette fascination pour Philippe Martinez ?
Tout à fait. Alors bon, ça reste un récit très écrit. Donc j'ai construit aussi un personnage qui est le personnage en fait de Pépito, Philippe Martinez. Alors Pépito, c'est pas mon expression, c'est une expression en fait usitée au sein en fait de la CGT pour
tout parler de Philippe comme ça, Martinez.
Beaucoup de gens en fait et de ses proches l'appellent pour comme cela. Certains en fait y trouvent d'ailleurs dans cette appellation des connotations racistes puisque Philippe Martinez est d'origine espagnole. Donc voilà.
Vous l'appelez comme ça devant lui ou dans son dos ?
Oh non. Je crois que lui-même en fait l'a dit dans une vidéo. On a l'habitude de m'appeler comme ça à la CGT. Non, c'est jugé par certains péjoratifs, mais en tous les cas, lui ne le juge pas en fait ainsi. Donc,
en tout cas, le type vous plaît.
Le type me plaît, oui, pour une raison en fait assez simple, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'avais commencé à militer contre les ordonnances, la loi travail dans un premier temps en 2016. Il y avait en fait ce mouvement qui était le mouvement La Nuit Debout, et je me rappelle en fait d'une apparition de Philippe Martinez un soir en fait à La Nuit Debout où il essayait en fait, de manière en fait à mon avis très sincère, de joindre les deux bouts, c'est-à-dire de faire de la convergence des luttes, à la fois en fait les gens qui étaient à Nuit Debout, les gens qui sont devenus en fait des militants de la France Insoumise, et puis la CGT qui était en perte de vitesse puisqu'elle sortait tout juste de l'affaire Le Pen.
Sauf que, Philippe Martinez, il ne vous calcule pas trop. Hein, dans le livre, vous le répétez plusieurs fois, il vous ignore et vous êtes un peu vexé visiblement par ça.
Oui, tout à fait. Alors, je construis en fait un personnage aussi qui est le mien, qui est un personnage un peu naïf et un peu candide, qui était parti à la rencontre en fait de son idole, qui se trouve en fait totalement ignoré par son idole, Philippe Martinez, et qui va en fait de Charib d'Ancilla et qui découvre en fait une autre facette du personnage, un type plutôt froid, plutôt en fait un petit patron de PME à l'ancienne, hein, qui n'hésite pas, par exemple, à ne pas répondre aux attentes de ses salariés lorsqu'il était encore à la métallurgie, qui ont fait une grève qui a duré 2 mois, tout simplement, parce qu'il installait en fait des mesures de contrôle du temps de travail. Voilà, un personnage plutôt antipathique,
Vous y allez, hein, vous lui mettez plusieurs couches, hein, quand même. Martinez n'est pas l'ami des salariés de la CGT, loin de là. Il ne l'a d'ailleurs jamais été. Si Pépito a un sens de l'humour corrosif, il n'en reste pas moins un patron dans l'âme. S'il méprise en apparence ses salariés, il aime se faire prendre en photo avec des travailleurs en lutte. Et vous dites que son obsession, c'est sa réélection qui doit avoir lieu en mai 2019. Il connaît intimement les tares de ses camarades. Il les sait racistes, quelques-uns, machistes presque tous, paresseux, vénaux, opportunistes. Philippe a tout à fait conscience qu'il a atterri dans un panier de crabes en prenant la tête de la CGT.
Oui, tout à fait. C'était une période en fait tout à fait bouleversée puisque Le Pen, son prédécesseur, avait été viré par la CGT. Ouais. Lui arrivait, c'était un peu un candidat par défaut, il arrivait sans programme, sans stratégie, mais avec beaucoup de tactique et beaucoup de sens tactique. Et donc son seul objectif, tel que je le vois en tous les cas, c'était de durer le plus longtemps possible dans une CGT totalement à la rescousse.
Alors c'est ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que c'est pas simplement, vous ne réglez pas simplement son compte à Philippe Martinez, vous racontez la CGT telle que vous l'avez vécue de l'intérieur. Si vous deviez décrire votre impression générale en quelques mots, à quoi ressemble la CGT ?
Alors, la CGT maintenant, enfin en tous les cas la Confédération, je fais une différence entre les CGTistes de base qui lutte dans les entreprises et la Confédération, hein, qui
siège.
Est la bureaucratie. Ce sera en fait une espèce de canard stalinien sans tête, hein, qui n'a plus aucun. c'était un objectif, sinon, en fait, pour les membres en fait, de cette confédération, de conserver leur place. Mmh. Et donc, ça donne lieu, en fait, à des règlements de compte permanents entre différents clans au sein de la CGT. Et on a l'impression, en fait, que l'objectif final de tout cela, c'est, en effet, uniquement de conserver les places et les rentes qui sont ceux de familles, voire de dynasties, hein, puisque c'est un peu aussi ce que j'ai découvert à CGT, c'est-à-dire que les salariés sont des membres de familles qui se cooptent les uns et les autres. C'est une espèce d'entreprise népotiste comme jamais j'en ai vu.
Vous dites peu importe que la majorité des conseillers ne soient pas armés pour occuper leur poste, les compétences sont la dernière préoccupation de ceux qui distribuent les places à la CGT. Les nominations sont faites en fonction d'appartenance à des clans. Vous parlez aussi de harcèlement, et là je vous cite encore. Oui. Les couloirs de la CGT bruissent d'affaires de harcèlement, certaines vérifiées, d'autres n'étant que des rumeurs de mise au placard. Et là, on a un peu quand même l'impression que vous mettez tout ça dans le même sac. Vous êtes journaliste de profession, oui. Jean-Bernard Gervais. Vous savez qu'une affaire vérifiée et une rumeur, c'est pas la même chose. Quand même. Sûr, là, on se dit, là, il se fait plaisir un peu. Là.
Non, je ne pousse pas. Enfin, je travaillais, donc j'avais en fait sous mes ordres une dizaine de personnes, dont en fait un caméraman qui, lui, avait reçu au moment en fait où je rentrais en fait à la CGT l'équivalent de 50 000 ou 60 000 euros. Tout ça en fait pour dédommagement en fait d'une période de harcèlement qui avait duré plusieurs années. Il avait été mis au placard. Et
mais s'il y a un cas de harcèlement, là vous dites bruit d'affaires de harcèlement, certaines vérifiées, d'autres n'étant que des rumeurs.
Oui, donc c'est un des cas, en tous les cas documentés dont je vous parle. Il y en a d'autres. J'ai aussi en fait assisté à des cas de harcèlement sexuel. Une personne qui a été accusée de harcèlement sexuel et qui finalement a été dédouanée. Une autre personne qui était mon supérieur hiérarchique.
Accusée, dédouanée, si elle est dédouanée, elle n'est plus accusée. Enfin voilà.
Oui, tout à fait. C'est pour ça en fait que je vous dis que ça bruisse de rumeurs en fait de harcèlement.
Le climat a l'air quand même particulier là-dedans. Hein.
Le climat est extrêmement en fait nocif, extrêmement délétère. Avant que je ne parte, en fait, mon directeur Daniel Souti a lui-même été accusé en fait de harcèlement sexuel. La personne qui l'a accusé a été déplacée. Ça, c'est en fait une chose qui m'a aussi révulsé, parce qu'en fait, on aurait pu penser qu'en effet, dès lors que l'accusation a été portée, il aurait dû être mis à pied, au moins en fait, à titre conservatoire. À toi, le temps que l'enquête soit menée. Mais encore une fois, en fait, on se rend compte que ça ne répond pas forcément à des normes telles qu'on les connaît. C'est-à-dire le code du travail n'est pas forcément appliqué à la CGT, voire pas du tout. Quand je suis arrivé, un détail qui m'a choqué aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'instance représentative du personnel.
Alors, vous dénoncez aussi le machisme, le sexisme qui régnerait au siège à Montreuil. Ça se traduit comment ?
Alors, ça se traduit en fait de manière très 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 simple, c'est-à-dire que il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a en fait une affiche avec des personnes dévouées, campagnes qui sont menées contre le machisme, des avancées également menées par en particulier Madame Binet, hein, qui a fait un boulot assez extraordinaire. Et puis finalement il y a eu en fait cette vague de MeToo qui a fait en sorte en fait que les langues se sont déliées et que tout simplement des personnes, les femmes, hein, ont tout simplement commencé à se plaindre du harcèlement dont elles ont été victimes.
Ça vous a choqué ce que vous avez vu là-bas ?
Ça m'a choqué, oui. Enfin, ce qui m'a choqué, c'est pas tant en fait que le harcèlement existe, c'est le fait que ce harcèlement soit tu, soit caché, et dès lors en fait que les personnes commencent à vouloir en fait revendiquer leurs droits, et bien tout simplement elles sont déplacées comme la personne dont je vous ai parlé qui a été déplacée parce qu'elle avait accusé en fait son directeur de harcèlement sexuel.
Mais Jean-Bernard Gervais, vous êtes pas mal vous en matière de sexisme et de machisme. Lors d'une interview à BFM TV, vous décrivez une journaliste en ces termes, ce sont vos mots. Hein. La blondasse défraîchie joue le rôle de la méchante. En parlant d'une de vos collègues un peu plus tard, vous dites, elle ressemble un peu à Chantal Goya, mais empâtée. Ça se pose là, non ?
Oui, enfin bon, comme je vous l'ai dit, c'est des personnages en fait que j'ai construits. Alors il y a des caractères.
Ah, c'est un peu trop facile de dire c'est un personnage quand ça m'arrange pas. Et puis c'est mon récit et je vous raconte ce qui se passe au cœur de la CGT.
Non, mais je fais quand même une différence entre finalement les récits que je peux et les personnages que je construis et finalement les actes de harcèlement.
Alors on croit quoi ? C'est une fiction ou c'est un récit ?
Et les actes de harcèlement sexuel que j'ai constaté, c'est quand même deux choses quand même assez différentes.
Une fiction ou c'est un récit votre livre ?
C'est un récit. Hein, c'est un récit. Tout ce qui est dit en fait
est vrai.
Ce sont des faits en fait relatés. Ce sont des faits documentés. Tout ce qui est dit. Et alors, il y a juste en fait un petit détail que j'ai pour le respect en fait de certaines personnes. Les prénoms et les noms ont été changés.
Hein. Alors, Philippe Martinez, on l'a rencontré aujourd'hui en telle parce qu'il avait une manif et on lui a demandé, en l'occurrence c'est Valentin Guanatou, qui lui a demandé ce qu'il pensait de votre livre et voilà ce qu'il a dit.
C'est pas un travail journalistique, c'est des états d'âme certainement d'un garçon qui est un peu frustré. Lisez-le, vous serez en capacité par vous-même de dire que globalement, il y a un mensonge par page. Je crois que la déontologie, c'est un des critères et une valeur importante de votre métier.
Oui, non, non, c'est totalement faux. Si ça avait été le cas, en fait, j'aurais été attaqué pour diffamation. J'ai pas été attaqué. Et en fait, je le mets au défi d'ailleurs, Philippe Martinez, de m'attaquer pour diffamation. Il n'y a jamais eu en fait un seul mensonge par page. Tout ce qui est écrit est documenté. Donc,
votre livre, il interpelle un peu. Il trouve parce que ça fait un peu amoureux et conduit. Il a pas voulu de moi, alors je me venge.
Non, pas du tout, pas du tout. Non, non. Le principe en fait du bouquin est très simple. Hein. C'est-à-dire que les principes de CGT, j'ai essayé en fait de les prendre les uns après les autres. Il existe une bible en fait à CGT qui s'appelle les repères revendicatifs. Hein, et dans ces repères revendicatifs, il y a tout en fait les principes. Je ne veux pas en fait les édicter les uns après les autres.
Non,
il y en
parce
a une
qu'on
cinquantaine.
Est au bout, là.
Voilà, tout à fait. Et j'ai essayé en fait de comparer mon expérience aux repères revendicatifs en fait de la CGT pour m'apercevoir que la plupart en fait de ces repères revendicatifs étaient foulés aux pieds, tout simplement. Le code du travail n'est absolument pas respecté. Il n'y avait aucune instance représentative du personnel. Les cas de harcèlement, en fait, quand ils sont dénoncés, en fait, ne sont pas traités. Il y a également, en fait, du machisme. Il y a également, en fait, du népotisme au sein de la CGT, au sein de la Confédération, en tous les cas. C'est cela, en fait, dont je parle et c'est cela que je dénonce.
Il s'appelle Jean-Bernard Gervais. Il a décidé de brûler le royaume qu'il a tant aimé, au royaume de la CGT, la résistible ascension de Philippe Martinez. C'est à lire chez Michalon. Merci d'être venu ce soir dans RTL Soir. Quand Dunkerque se confine, Julien Molcou déconfine la culture de l'actu. À tout de suite.
Thomas Soto. RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Et c'est l'heure de retrouver Julia Molcou. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On l'a entendu, un flambé du variant anglais à Dunkerque et dans la région, et donc reconfinement à Dunkerque à partir de vendredi et pour le week-end, en tout cas reconfinement pour les week-ends. L'occasion de nous parler de cette commune française, mais d'un point de vue culturel et historique, et il y en a des choses à dire.
Dunkerque, la Flamande, avec mes souvenirs, et le port de Dunkerque et ses larges écluses.
Dunkerque. Dunkerque qui signifie église dans la dune en ancien néerlandais n'était à l'origine qu'un simple hameau de pêcheurs entouré d'une palissade. Au XIIIe siècle, on construit un petit port de pêche et c'est bien sa position enviable vis-à-vis de la mer du Nord qui va faire changer Dunkerque de nationalité plusieurs fois jusqu'à ce jour de 1662 où Louis XIV rachète la ville aux Anglais et confie à Vauban les travaux d'urbanisme pour que Dunkerque devienne, et là, je cite Louis XIV, c'est pas tous les jours, le plus beau lieu du monde.
Marchant dans la brume, le cœur démoli par une.
Oh, j'adore.
Sur le chemin des dunes, la plage de Malo-Bray-Dune.
La plage de Malo-Bray-Dune que chante Alain Souchon dans Le Baiser, eh bien c'est la plage de Dunkerque, la fameuse cité balnéaire de Malo-les-Bains qui attire Parisiens et Lillois depuis 1891. Et puis les guerres vont arriver, et si la Première Guerre mondiale va frapper durement Dunkerque et ses habitants, eh bien la Seconde Guerre mondiale sera, elle, dévastatrice pour la ville. En mai-juin 40, l'aviation allemande qui bombarde Dunkerque oblige la population à l'exode, et les troupes franco-britanniques, qui se retrouvent donc totalement encerclées, eh bien évacuent la ville par le port et les plages.
Nous venons de subir une véritable débâcle. Nous irons jusqu'au bout.
Un appel a été lancé, on doit aller à Dunkerque. Préparez à larguer les amarres.
Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte où on va?
On met le cap sur la guerre.
Je vous serai utile, monsieur.
C'est un des nôtres.
Il m'aligne.
Je l'aligne.
Et c'est bien ce que raconte Dunkerque, le film de Christopher Nolan sorti en 2019. L'histoire de ces 400 000 soldats pris au piège, dont 300 000 réussiront malgré une pluie de bombes à rejoindre l'Angleterre pour y poursuivre le combat et venir à bout de l'armée du Troisième Reich. C'est ce qu'on a appelé l'opération Dynamo. Et il n'y a peut-être que pendant les années de guerre que le carnaval de Dunkerque avait été annulé, jusqu'à cette année, pour cause de Covid évidemment.
On entend les fifres, on entend les tambours, le frisson, la bière et on est parti.
T'as pas eu le temps qu'il fait, il va faire trop chaud dans la banque. Il y aura plein de cons qui vont venir, quand il fait chaud, les cons ils viennent. Après,
il
y a que les bons qui viennent.
Le carnaval Dunkerque est une véritable institution. Hein.
Bah oui, normalement ça commence autour de Mardi Gras et là c'est parti pour deux mois de fête dans toutes les communes du Dunkerquois. Déguisées, maquillées, ce sont plus de 10 000 personnes qui chaque samedi se retrouvent dans la rue, dans des bals ou chez des gens pour chanter et danser. Mais cette année, du lancer de harangues au tambour major qui conduit la musique, au rigodon final, en passant par le concours de cris de mouette.
Voilà. Elle a pris cher la mouette là quand même.
Elle a pris un peu cher. Et bien cette année,
Tout aura été digitalisé pour le grand désespoir des Dunkerquois et de tous les fidèles du carnaval. Pour qui 2021 rimera avec déguisement à la maison et pourquoi pas, écoute en boucle des 6 CD enregistrés par les Proutes. Les Proutes, c'est un groupe de musique amateur, mais officiellement distributeur de chansons grivoises du carnaval. Donc même fait 4 Olympias.
Ce matin, c'est pas normal. Baguette, ça dit. Tous ces autres de carnaval. Baguette, ça dit. Et ce cri dans tout la guerre.
Je vous avais dit qu'on terminerait en farandole.
J'adore. Oui. Je pensais pas quand on a entendu Olivier Véran nous annoncer tout à l'heure à 17h, 17h30 que Dunkerque allait être reconfiné le week-end. Ben, je pensais pas que vous auriez tout ça raconté. Oh, bravo. Bravo,
Julien. Merci, Thomas.
Merci beaucoup. Thomas.